Nuit de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On n'a jamais de preuves chez Lautréamont, on a toujours des doutes. Lautréamont, apprécié par Huysmans, Léon Bloir, Rémy de Gourmont, puis par les symbolistes, plus tard par les surréalistes, lu, apprécié et reconnu. Ce que l'on sait de la vie d'Isidore Ducasse, le véritable miracle, c'est que Lautréamont, Isidore Ducasse, est connu. Et la date importante, octobre 1885. 15 ans après la mort du poète, durant le siège de Paris en 1871, il avait à peine 24 ans. Oui, octobre 1885, date essentielle, parce que cet auteur maudit par qui ? Par son époque, allait être sauvé grâce à la revue La Jeune Belgique. Relecture Lautréamont par Hubert Join, première diffusion sur France Culture le 27 juin 1975.
Relecture, une émission d'Hubert Join, réalisée par Anne Lemaître. Aujourd'hui, Lautréamont, avec la participation de Noël Arnaud, François Karadec, Alain Jouffroy, Marcelin Plénet, Philippe Solers et les voix de Jean Bollery et Jean Topard.
Plutôt ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle. Ou plutôt, comme un angle à perte de vue de grues frileuses, méditant beaucoup, qui pendant l'hiver vole puissamment à travers le silence, toute voile tendue vers un point déterminé de l'horizon, d'où tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille, et qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela, branle la tête comme une personne raisonnable. Conséquemment, son bec aussi qu'elle fait claquer et n'est pas contente. Moi non plus, je ne le serais pas à sa place. Tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de trois générations de grues, se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage qui s'approche de plus en plus. Après avoir, de sang-froid, regardé plusieurs fois de tous les côtés avec des yeux qui renferment l'expérience, prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues inférieures en intelligence, avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle pour repousser l'ennemi commun, elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage, soit à bâbord, soit à tribord, comme un habile capitaine. Et manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau, parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr.
Cet homme qui vient de se présenter lui-même, c'est le comte de Lautréamont. Autrement dit, Isidore Ducasse. Ce qui nous incite à relire aujourd'hui Isidore Ducasse, c'est d'abord parce que ses œuvres complètes se trouvent pratiquement dans toutes les collections au format de poche. D'autre part, d'une façon plus précise, l'ouvrage fondamental de François Caradec sur la biographie de ce personnage à la fois énigmatique et connu vient d'être réédité dans une collection elle aussi au format de poche, la collection Idées chez Gallimard. Ce livre a pour titre Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. Et on s'aperçoit à la lecture de ce livre qu'il y a comme un malentendu, parce qu'on pensait évidemment à l'énigme Lautréamont Ducasse, au fait que c'était une façon de météore qui avait traversé soudain l'histoire du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, et qui était resté parfaitement inconnu. Or, François Caradec, par ses recherches, dont ce livre est le résultat, montre au contraire que cet inconnu, eh bien, non, il n'est pas inconnu. Il n'était pas connu par ses contemporains. Je crois qu'il y a eu de son vivant deux textes très courts, très brefs, le concernant. Il ne paraît dans aucun mémoire du temps. Et cependant, on parvient à reconstituer sa vie d'une façon assez globale, contrairement d'ailleurs à des existences de poètes, d'écrivains, de personnages plus célèbres en leur temps que lui, ce méconnu, ne pouvait l'être au sien. Alors François Caradec, je ne vais pas revenir, je crois, sur ce qui a été votre méthode, qui a été de suivre réellement pas à pas Isidore Ducasse, c'est-à-dire à aller réexaminer, à aller vérifier tout ce qui était de ci, de là, avancé à son propos, et ainsi avez-vous pu réussir à découvrir de nouvelles choses et surtout à rectifier un certain nombre d'erreurs. Mais je voudrais surtout que nous revenions pour un instant sur ce fait très précis de la connaissance biographique de Ducasse.
Je ne pense pas que j'ai découvert grand-chose, mais je crois que tout le monde avait travaillé sur Lautréamont en se disant, jusqu'ici, sur Isidore Ducasse, disons sur le personnage réel, en se disant que c'était un mystère, qu'il y avait un mystère.
La fin du XIXe siècle verra son poète. Cependant, au début, il ne doit pas commencer par un chef-d'œuvre, mais suivre la loi de la nature. Il est né sur les rives américaines, à l'embouchure de la Plata, là où deux peuples jadis rivaux s'efforcent actuellement de se surpasser par le progrès matériel et moral. Buenos Aires, la reine du Sud, et Montevideo, la coquette, se tendent une main amie à travers les eaux argentines du Grand Estuaire, mais la guerre éternelle a placé son empire destructeur sur les campagnes et moissonne avec joie des victimes nombreuses. Adieu, vieillard, et pense à moi si tu m'as lu. Toi, jeune homme, ne te désespère point, car tu as un ami dans le vampire, malgré ton opinion contraire. En comptant l'Acarus sarcopte qui produit la gale, tu auras deux amis.
La famille Ducasse est originaire de Bazette, Sarniguette, enfin des petits villages qui sont à 5-6 km de Tarbes. Ce qui explique d'ailleurs que Isidore Ducasse, qui est né à Montevideo, soit revenu faire ses études à Tarbes, puisque là, il pouvait, étant interne au lycée, avoir de la famille qui pouvait le prendre aux vacances, par exemple, des choses aussi simples que ça. Le père d'Isidore Ducasse était instituteur à Sarniguette. Il est parti à Montevideo, il s'est installé dans les années 1840, et là, il a travaillé au consulat de Montevideo. Il semble qu'une jeune fille...
De la même région.
De la même région, on sait qu'elle est de la même région. Elle est de Sarniguette, je ne pense pas qu'il se soit connu avant, mais en tout cas, il l'a connue à Montevideo, et il a dû l'épouser de façon un peu précipitée, surtout pour l'époque, étant donné qu'elle était enceinte, et que Isidore Ducasse est né très peu de temps après le mariage. Non seulement Isidore Ducasse est né, si vous voulez, un peu tôt, et qu'il y a dû y avoir un petit scandale dans la colonie française, certainement à l'époque. Mais également, elle est morte quand il était très très jeune. On ne sait pas de quoi elle est morte. On peut tout soupçonner. On peut soupçonner le suicide, on peut tout soupçonner. Ça, on revient un petit peu à une légende. En tout cas, une chose qui est très claire, c'est que le père Ducasse l'a fait totalement disparaître. Il l'a fait totalement disparaître, étant donné que sur les pièces d'état civil, l'état civil était tenu à ce moment-là par l'Église, obligatoirement tenu par l'Église montévidéenne. Or, elle n'apparaît que sous son prénom. Et ce qui fait que il y a eu des chercheurs, les frères Guillaume Munoz, par exemple, qui à un moment ont cherché dans les archives, mais ils cherchaient un nom, ils cherchaient dans les marges, dans les marginales, ils cherchaient Ducasse. Ils sont passés par-dessus Jaquette, puisqu'elle n'a été enterrée que sous son prénom.
Et alors, si nous passons un peu rapidement, nous rejoignons ce que vous avez dit, à savoir que Isidore Ducasse, arrivé à un âge où il pouvait entamer des études, est envoyé dans sa famille, en tout cas envoyé en France, mis à la garde de la famille Ducasse, de ce qu'il en restait à Tarbes, et nous retrouvons là peut-être une des origines du premier chant, c'est-à-dire la fréquentation de certains de ses camarades.
Oui, je crois que dans les chants de Maldoror et dans le premier chant, on trouve des allusions à sa jeunesse, au lycée, on trouve même des blagues de lycéens. Les poux, par exemple, pour moi, a toujours été une blague, enfin, c'est réellement du canular énorme, qui finit tragiquement, toujours chez le comte de Lautréamont. Mais je crois, si vous voulez, que là, il faut être très 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 prudent avec la... Enfin, je crois l'avoir été, mais j'ai été aussi d'ailleurs imprudent de temps en temps quand il le fallait ou quand ça m'amusait.
Oui, parce que vous avez quand même souligné vous-même ce genre de rapprochement possible.
Oui, ben c'est le rapprochement possible, il est donné déjà surtout par les trois versions que nous connaissons du premier chant.
Oui, il faut dire ici que le premier chant a effectivement paru trois fois, c'est-à-dire une première fois dans une édition anonyme chez Ballytout, une seconde fois, presque concurremment, pourrait-on dire, dans une publication bordelaise à compte d'auteur, chez Garance, et évidemment une troisième fois dans l'édition La Croix. Nous parlerons de La Croix plus tard, mais ce qui est quand même de très important là et qui montre quelque chose d'assez insidieux en ce qui concerne la jeunesse de l'œuvre, c'est les variantes qui s'établissent entre les deux premières éditions du premier chant et l'édition La Croix. Et ceci à peu d'années de distance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, pour être très clair, le remplacement d'un de ses amis qui s'appelle Dazette par les fameuses métaphores ou images poétiques que nous connaissons.
C'est ça. Dazette était un personnage qui était beaucoup plus un coureur de femmes qu'un homosexuel, comme on l'a laissé soupçonner à un moment. Je pense donc que Dazette est un amour juvénile. Mais je ne sais même pas si c'est un amour juvénile. Je n'irai pas jusque-là, si vous voulez.
Oui, de toute façon, il faut quand même dire que on s'engagerait sur des chemins très périlleux en voulant absolument parler, disons, de la sexualité d'Isidore Ducasse.
Ah oui, elle est compliquée. De tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est compliquée. Mais justement, qu'elle soit assez simple pour qu'on puisse dire qu'il est homosexuel, alors là, je trouverais ça que c'est réellement simpliste.
Oui, mais vous passez sur quelque chose quand même qui me requiert beaucoup, c'est que dans le premier chant chez Ballytout, c'est Dazette en toutes lettres.
Oui,
ensuite. À quelques mois, même pas de distance, c'est D, trois points.
Oui.
Et encore quelques mois plus tard, c'est l'image poétique.
Il y a donc là, c'est très net, on tombe dans la biographie, il y a une brouille. D'abord, le jeune Dazette était le frère d'un polytechnicien, son père était avoué. C'est quand même des gens très honorables qui ont dû voir avec un certain déplaisir apparaître le nom de Dazette, leur propre nom, dans un texte que Isidore Ducasse, dans sa grande naïveté, a dû s'empresser de leur faire parvenir. Et ils ont donc été mécontents, d'autant plus d'ailleurs que Dazette, on le retrouve, je ne sais pas si Isidore Ducasse l'a retrouvé, mais Dazette, au moment où Isidore Ducasse est arrivé à Paris pour faire de la littérature, comme je le pense, Dazette lui faisait son droit à l'école de droit, à côté du Panthéon... que Lautréamont cite lui-même. Enfin, tout est très imbriqué, si vous voulez. tout est toujours très biographique. Enfin, on n'a jamais de preuves dans Lautréamont. On a toujours des doutes. On se dit, c'est pas possible, enfin, qu'un personnage de Melvin finisse par venir s'écraser sur le Panthéon et que Dazette est à 5 mètres de là, à l'école de droit.
C'est-à-dire, si vous voulez, avant d'en arriver à cette histoire effectivement très énigmatique, nous suivons Isidore Ducasse. Là, il y avait un trou, parce qu'on s'est longtemps demandé si Ducasse, Isidore, était retourné aux Amériques ou non. Alors là-dessus, vous avez fait la lumière. On sait qu'à un moment
Je n'ai pas fait.
Si, parce qu'à un moment donné, nous savons maintenant qu'il est plus que probable qu'Isidore Ducasse ait été, pour un séjour plus ou moins bref d'ailleurs, en Amérique du Sud, d'où probablement des images qu'on retrouve dans le premier champ.
Il est certain qu'il est parti, puisqu'on a trouvé sa demande de passeport à Tarbes et son embarquement sur un bateau à Bordeaux.
Il n'y a pas longtemps que j'ai revu la mer et foulé le pont des vaisseaux, et mes souvenirs sont vivaces comme si je l'avais quitté la veille. Soyez néanmoins, si vous le pouvez, aussi calme que moi dans cette lecture que je me repens déjà de vous offrir, et ne rougissez pas à la pensée de ce qu'est le cœur humain. Ô poulpe, au regard de soi, toi dont l'âme est inséparable de la mienne, toi le plus beau des habitants du globe terrestre, et qui commande un sérail de 400 ventouses. Toi en qui siège noblement, comme dans leur résidence naturelle, par un commun accord d'un lien indestructible, la douce vertu communicative et les grâces divines, pourquoi n'es-tu pas avec moi, ton ventre de mercure contre ma poitrine d'aluminium, assis tous les deux sur quelques rochers du rivage, pour contempler ce spectacle que j'adore. Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. Tu es un immense bleu appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse qu'on croirait être le murmure de ta brise suave passe en laissant des ineffaçables traces sur l'âme profondément ébranlée, et tu rappelles au souvenir de tes amants, sans qu'on s'en rende toujours compte, les rudes commencements de l'homme, où il fait connaissance avec la douleur qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique, qui réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme, pareils à ceux du sanglier pour la petitesse et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que l'homme ne croit à sa beauté que par amour-propre, mais qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute. Car pourquoi regarde-t-il la figure de son semblable avec tant de mépris? Je te salue, vieil océan.
Le voilà à Paris. Et à Paris, très curieusement, enfin, une chose qui me trouble, c'est qu'il va toujours loger, pratiquement, chez le même personnage. Il faut dire que Isidore Ducasse reçoit de l'argent de son père, qui est riche, et Isidore...
Il en reçoit beaucoup.
Il en reçoit beaucoup, et Isidore Ducasse vit, on dit, à l'hôtel. Or, il ne faut pas là faire de confusion, ce sont des garnis, si l'on peut dire, des garnis de luxe, puisqu'ils sont situés dans les beaux quartiers de l'époque et doivent être assez coûteux.
Oui, ce sont pas des chambres d'hôtel. Il ne vit pas dans des chambres d'hôtel. Il vit dans le quartier le plus luxueux de Paris, sur les grands boulevards. Et il est réellement, ce qu'on appelle le boulevard à l'époque était réellement une partie très très courte entre le carrefour Montmartre et la rue de Richelieu. C'est là qu'il habite toujours et autour de la Bourse. C'est réellement un personnage de caricature. C'est l'Américain du Sud qui débarque dans le quartier le plus chic. À Paris, le correspondant de son père est un banquier, à qui les seules lettres qu'on connaisse d'ailleurs sont adressées à ce banquier. Mais également, ce n'est pas lui, puisque lui, évidemment, ce jeune homme n'avait aucune fortune, c'est dans celle de son père, qui a pu payer une première édition du premier chant
chez
Balitout, à compte d'auteur, une deuxième édition du premier chant, ce sont des plaquettes, tout ça, à Bordeaux, un volume entier qui est réellement important.
Oui, mais là, c'est parce aussi, je vous coupe une seconde, c'est là aussi parce que à côté de l'endroit où il vit, se trouve une librairie très importante. Celle de
oui,
la Croix.
Il y a la librairie La Croix. C'est la librairie La Croix. Même les gravures de l'époque qui représentent le boulevard, on voit la librairie La Croix.
Il faut dire que c'est l'éditeur de Victor Hugo.
C'est un éditeur courageux qui publie un des premiers Zola, malgré les poursuites à peu près certaines. En même temps, comme tout éditeur d'avant-garde de l'époque, est éditeur international, c'est-à-dire qu'il a quand même un pied en Belgique pour pouvoir prendre la fuite si nécessaire. Et qu'il a d'ailleurs son imprimeur en Belgique.
Et là, Isidore Ducasse traite avec La Croix pour l'édition des Chants de Maldoror, c'est-à-dire l'édition définitive que nous connaissons. Il lui fait une avance de 400 francs, je crois.
Oui.
Et finalement, peut-être pas tellement par manque d'argent, mais parce que lui-même, comte de Lautréamont à ce moment-là, évolue dans sa pensée, ne paye pas le solde et n'obtient de La Croix qu'une vingtaine d'exemplaires brochés.
Il lui demande une vingtaine d'exemplaires, mais je crois que ce sont les seuls exemplaires qui paraissent en 1869. C'est-à-dire, donc, il n'est pas mis en vente. Ce livre n'est pas mis en vente.
Et là, nous sommes à la fin du Second Empire. Nous nous trouvons en face d'un mouvement d'ordre moral. Mais d'ordre moral, attention, d'opposition.
Oui.
C'est-à-dire, il y a là, à ce moment-là, beaucoup de publications de jeunes, plus ou moins jeunes, qui prennent fait et cause contre le Second Empire, qu'ils jugent pourri.
Le désordre moral.
Le désordre moral. Et il semble, à ce moment-là, nous en avons une preuve d'ailleurs par le seul compte-rendu paru du premier chant, qui est manifestement de Circos, Circos étant un de ces personnages, justement, du nouvel ordre moral, et il se produit, apparemment, puisque nous allons très vite passer à poésie, un retournement.
À Monsieur d'Arras, Paris, 12 mars 1870. Monsieur, laissez-moi reprendre d'un peu haut. J'ai fait publier un ouvrage de poésie chez Monsieur Lacroix, boulevard Montmartre 15, mais une fois qu'il fut imprimé, il a refusé de le faire paraître parce que la vie y était peinte sous des couleurs trop amères et qu'il craignait le procureur général. C'était quelque chose dans le genre du Manfred de Byron ou du Conrad de Mickiewicz, mais cependant bien plus terrible. L'édition avait coûté 1200 francs, dont j'avais déjà fourni 400 francs, mais le tout est tombé dans l'eau. Cela me fit ouvrir les yeux. Je me disais que puisque la poésie du doute, des volumes d'aujourd'hui, il ne restera pas 150 pages, en arrive ainsi à un tel point de désespoir morne et de méchanceté théorique. Par conséquent, c'est qu'elle est radicalement fausse. Par cette raison qu'on y discute les principes et qu'il ne faut pas les discuter. C'est plus qu'injuste. Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes hideux. Chanter l'ennui, les douleurs, les tristesses, les mélancolies, la mort, l'ombre, le sombre, etc., c'est ne vouloir à toute force regarder que le puéril revers des choses. Lamartine, Hugo, Musset se sont métamorphosés volontairement en femmelettes. Ce sont les grandes têtes molles de notre époque, toujours pleurnichées. Voilà pourquoi j'ai complètement changé de méthode pour ne chanter exclusivement que l'espoir, l'espérance, le calme, le bonheur, le devoir. et c'est ainsi que je renoue avec les corneilles et les racines la chaîne du bon sens et du sang-froid, brusquement interrompue depuis les Poseurs, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau.
Nous avons à ce moment-là une précipitation des événements, car c'est vrai, la guerre menace, elle menace tant et si bien qu'avec l'aide de la Camarilla de l'impératrice, elle a lieu, et ça va très vite, c'est Sedan, l'effondrement, et surtout, le siège de Paris. Et pendant ce siège de Paris, Isidore Ducasse, un peu comme il l'avait décrit d'ailleurs dans les Chants de Maldoror, meurt.
Oui, il ne meurt pas du tout mystérieusement d'ailleurs. On se demande pourquoi il ne participe pas au siège de Paris. À un an près, juste avant sa mort, à un an près, il meurt à 24 ans, on mobilise les hommes de 25 ans. Il n'est pas mobilisé. Il passe à travers tout encore. Mais, quand on regarde les statistiques de l'époque, les statistiques sont telles, reflètent une augmentation des décès vertigineuse dans les derniers mois du siège, et encore le siège n'est pas terminé au moment où meurt notre amant, où meurt Isidore Ducasse, que sa mort est statistiquement normale. Et sa mort est effrayante. Sa mort, d'ailleurs, pourrait être un suicide. Parce que voilà un garçon qui a publié une première œuvre, et ça n'a jamais paru. Puis il décide à ce moment-là de publier, où il a des tiraillements d'ailleurs avec son père et avec son banquier, parce que tous ces gens-là versent beaucoup d'argent et voudraient avoir des résultats. Et il publie Poésie 1, et il publie Poésie 2, et il ne peut pas les poster. Car la poste ne marche même plus. Dans le fond, nous allons arriver au véritable miracle, Lautréamont, c'est qu'il soit connu, et que nous puissions le lire, et qu'il soit en livre de poche.